Que le Seigneur soit béni. Nous poursuivons ce sujet, même si ce matin l'église est un peu aérée, ça fait rien. Nous poursuivons ce sujet sur le repos. Vous savez que ça me préoccupe de voir tant et tant de chrétiens qui vivent mal leur foi, qui sont affligés, qui sont dans la peur, dans la crainte, etc. Et je crois qu'il faut que nous abordions ce sujet. Nous allons lire pour cela un psaume, je n'ai que l'embarras du choix, le psaume 91. Le psaume 91 est un psaume qui parle bien de ce que c'est qu'avoir Dieu pour refuge. Psaume 91. Alors, je vais vous donner quelques textes après avoir lu ce psaume, des textes que vous pourrez méditer pour comprendre que Dieu tient à ce que l'on sache qu'il doit devenir notre refuge. Il y a des textes dans la Bible, c'est écrit une fois. Est-ce que c'est bien que ce soit écrit qu'une fois? Bon, est-ce que c'est bien? Oui, c'est déjà bien. Mais quand ça revient comme ça, dans tous les livres presque, on voit que Dieu a pris le soin de faire en sorte qu'on le sache vraiment. Dieu aurait pu se permettre de le dire qu'une fois, c'est déjà pas mal. Ça suffisait en vérité. Mais il voit nos peines et ça nous fait réfléchir quand c'est écrit des centaines de fois. Dans le psaume 91, nous lisons. « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Amen. Amen. Est-ce que Dieu vous a déjà gardé? Combien de fois Dieu vous a gardé depuis votre naissance? Combien de fois Dieu vous a gardé sans que vous ne le sachiez? C'est incalculable, certainement. Si Dieu avait voulu vous reprendre, ce psaume est un psaume qui nous parle de la bénédiction d'avoir Dieu pour refuge. Le psalmiste dit, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Et vous, qu'est-ce que vous dites à Dieu? On a entendu des prières, on a entendu surtout des louanges, ce qui m'a réjoui d'ailleurs. Qu'est-ce que vous dites à Dieu ce matin? Qu'est-ce que vous lui dites? Qu'est-ce que vous lui dites au Seigneur? Merci, c'est bien. Vous lui dites vraiment merci? Merci pour la neige? Est-ce que c'est bien la neige, au fait? Pourquoi c'est bien? Ouais, ça fait du bien à la terre. Ça permet que les nappes phréatiques se remplissent beaucoup plus lentement et beaucoup mieux. Croyez-moi, c'est une bénédiction qu'il pleuve. Donc ce matin, nous allons voir le titre, j'ai mis « Dieu est-il ton refuge ?» Dieu est-il ton refuge? Alors, je vous donne quelques textes parce que je sais que plusieurs prennent des notes. 2 Samuel 22:3, Dieu est ma haute retraite et mon refuge. C'est David qui vient de faire une expérience. Voilà ce qu'il dit. Ailleurs, il dira, l'Éternel est un refuge au jour de la détresse. Parce que des jours difficiles, il y en a. Psaume 31:20, tu témoignes ta bonté à ceux qui cherchent en toi un refuge. Psaume 34, verset 9, heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Psaume 34, verset 2, ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. C'est pas beau ça? Ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Êtes-vous sous le sang de Jésus-Christ? Eh bien, vous échapperez au châtiment. Vous pouvez dire merci, là, croyez-moi. Psaume 46, verset 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Psaume 57. En toi, mon âme cherche un refuge. Psaume 62, verset 8. Mon refuge est en Dieu. Psaume 118, verset 8. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. J'ai mis, etc. Là, on est dans le psaume 91. Regardez le psaume 90, rien que le début, qui stipule que ce n'est pas une expérience dans le temps, c'est de génération en génération, c'est dans l'état d'esprit de Dieu. Prière de Moïse, homme de Dieu, Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Alors je vais vous poser quelques questions. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous aimez quand vous posez des questions? Vous aimez? Bon. En tous les cas, répondez-y. Même si vous n'aimez pas, tant pis. Est-ce que vous aimez le confort? Est-ce que vous aimez le confort? Voilà, vous êtes des chaises en baquet. Est-ce que vous préféreriez des chaises capitonnées avec du velours? Est-ce que vous préféreriez? Hein? Bon. Mais d'une certaine façon, est-ce que nous aimons le confort? Je ne parle pas du luxe. Il y a des gens qui aiment le luxe. Il faut faire la différence quand même entre le confort et entre le luxe. Est-ce que vous aimez le confort pour votre corps? Le culte, vous préférez qu'on le fasse là, au chauffage, assis, ou dans le jardin, en ce moment? Qu'est-ce que vous préférez? Ici, pourquoi? C'est 10 mètres. Pourquoi? Eh bien parce que c'est bien que notre corps soit à l'abri de la neige, du froid, du gel, de la pluie, du vent. C'est important pour notre corps. On y tient. Vous avez vu comment on fait en sorte que l'église soit chauffée, climatisée, aérée, etc. etc. Est-ce que vous aimez votre maison? Les femmes en particulier prennent un soin à faire en sorte que leur maison soit belle. Mes sœurs, alors vous qui avez une maison ou un appartement, est-ce que c'est important pour vous que votre maison soit propre? Est-ce que c'est important? Est-ce que comment vous vous sentez dans votre maison? Est-ce que c'est bien d'avoir une maison, que vous avez acheté un canapé peut-être il y a 6 mois, il y a 1 an? Non, non, mais je suis sérieux, vous allez comprendre, c'est pas que je m'intéresse à votre maison. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Est-ce que vous aimez soigner votre maison? Vous allez rentrer tout à l'heure. Est-ce que vous avez pris soin que le chauffage soit bien? Est-ce que vous faites attention à tout ça? Vous entendez souvent. Tu peux pas monter le chauffage un petit peu plus, s'il te plaît? Pourquoi? Parce que 1 degré, 2 degrés, c'est la preuve qu'on aime prendre soin de notre corps. Car quand on prend soin de sa maison, c'est qu'en vérité, on veut prendre soin de son corps. Où dormez-vous? Vous avez une maison? Où dormez-vous? Dormez-vous dans votre lit? Ou dormez-vous dehors sur un tapis? Vous savez, je ne sais pas si ça vous arrive le soir quand vous couchez, de penser au SDF. Vous y pensez certainement de temps en temps. Vous vous rendez compte ce qu'ils s'imposent, ce qu'ils vivent, ce qu'ils sont parfois obligés de vivre. Et c'est tout à fait normal que nous prenions soin de notre corps. Ce n'est pas de la mondanité. Ne spiritualisons pas tout. Ne diabolisons pas tout. Il y a des choses qui sont humaines, terrestres et qui sont vraiment bonnes. Nous sommes sur la terre. Dieu nous a donné un corps et je pense que nous aimons que notre maison soit le plus confortable possible. D'ailleurs, Paul dit à Timothée, pourtant mon pasteur, il dit « Dieu nous donne toutes choses afin que nous en jouissions ». Donc vous êtes d'accord avec moi, c'est bien que nous nous occupions de notre corps. Et béni soit le Seigneur pour tout ce qu'il nous donne pour notre corps. Vous êtes reconnaissant à Dieu? Quelle grâce. Bon. Je pense que tous à peu près des gens normaux, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas bien, qui sont en difficulté psychique et qui ne prennent pas conscience de certaines de ces choses, mais tous les gens normaux sont tous d'accord pour dire que c'est important d'attacher de l'importance à soigner son être extérieur, donc son corps. Mais est-ce que nous réalisons que notre être intérieur a également besoin de soins? Beaucoup de croyants disent, mais on le sait, oui. Mais est-ce que vous vous occupez de votre être intérieur? Vous avez vu combien le corps... Franchement, on aime rentrer à la maison. Moi, je ne sais pas, moi, j'aime le soir rentrer sous ma couette. J'aime être au chaud. Je bénis Dieu tous les soirs de ma vie. Tous les soirs, ça fait des années. Tous les soirs, quand je rentre dans mon lit, je dis, merci Seigneur. Je ne sais pas vous si vous le faites, parce que je sais que c'est un bienfait. Vous allez me dire, mais non, monsieur Hugo, c'est normal. Non, c'est une grâce de Dieu. Quand l'âme de quelqu'un, le corps, bon, on vient de parler du corps, bon, ça suffit, mais quand l'âme de quelqu'un est remplie de paix, est-ce que ce chrétien-là n'a pas pris soin de son âme? Eh oui, et c'est ça que Dieu veut. Bon, le cadre extérieur, c'est bien, mais vous savez, quand on est en paix, le cadre extérieur n'a pas beaucoup d'importance. Je me souviens, quand j'étais pasteur en Polynésie, il y avait deux églises, il y avait une église à Papeete, un très beau temple, vraiment trop beau presque, mais un très beau temple. Et à 30 kilomètres, il y avait une église en brousse. Par terre, c'était du corail. Vous savez, c'était du corail. C'était des tôles. C'était... Mais je vous assure, il y avait une bénédiction dans ce lieu. Il y avait une telle grâce, une telle paix, que le cadre extérieur n'avait pas d'importance. Parce qu'il faisait tout le temps chaud, tout le temps beau. Même s'il pleuvait parfois, il faisait beau. Pour expliquer que quand on est en paix, le cadre extérieur n'a pas beaucoup d'importance. Tant mieux s'il y a les deux. Tant mieux s'il y a le confort du corps, tant mieux s'il y a la bénédiction matérielle, mais imaginons-nous la grâce que c'est que d'avoir travaillé de sorte à ce que nous soyons en paix. D'ailleurs, votre présence ici me prouve que vous voulez vous occuper de votre être intérieur. Quoique beaucoup de gens vont à l'église par superstition, ils ont l'impression que Dieu est avec eux. Je vais à l'église tous les dimanches, donc Dieu est avec moi. Je vais à l'église tous les dimanches, donc j'aime Dieu. Un dimanche, j'avais dit, il y a 10 ans de ça, j'avais dit, si vous êtes ici, c'est que vous aimez Dieu. Et toute la semaine, j'ai été repris par le Saint-Esprit. Il y a des gens qui sont dans les églises, mais qui n'aiment pas Dieu. Car Dieu a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. J'ai été repris toute la semaine. Moi, je croyais avoir dit quelque chose de bien, et je peux vous dire que ça n'allait pas du tout. Donc, si vous avez lu les Proverbes également, vous avez vu combien le Salomon exprime cette pensée que lorsque l'âme va bien, eh bien, c'est bien. Qu'il vaut mieux habiter à l'angle d'un toit. Qu'est-ce qu'elle dit la suite? C'est-à-dire dans les combles aménagés. Il vaut mieux habiter à l'angle d'un toit que... Voilà. Que de partager la demeure d'une femme querelleuse. L'inverse doit être vrai aussi. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous êtes d'accord, les frères? Les sœurs, est-ce que vous êtes d'accord? Non, mais c'est... qu'est-ce que vous préférez? Habiter dans un endroit très sommaire, ou être avec un conjoint qui a cariâtre, méchant, et voilà. Voilà, mais oui, c'est écrit, et c'est écrit volontairement pour qu'on comprenne, et surtout pour qu'on réfléchisse à ces choses. Donc, vous savez où votre corps habite, d'accord? Vous savez où vous habitez. Bon, c'est bien. Mais votre âme, où habite-t-elle, votre âme? Où habite-t-elle? Ce matin, votre âme, où habite-t-elle? Vous avez lu avec moi, le psaume 91, vous avez vite lu avec moi quelques versets des psaumes où on voit très bien que Dieu déclare qu'il est notre refuge. Dieu le dit, je suis votre refuge. On voit, c'est clair, après l'avoir étudié, c'est très très clair, Dieu veut être notre refuge. Et pourtant, combien de chrétiens vivent dans l'errance spirituelle? Je ne parle pas des inconvertis, qui eux, c'est clair. Ils sont dans les ténèbres, donc incontournablement, ils sont privés de cette grâce. Mais combien de chrétiens, parce qu'ils n'ont pas compris, errent. Regardez avec moi le psaume 107, s'il vous plaît. On n'est pas loin, regardez le psaume 91. Regardez le psaume 107. Le psaume 107 exprime ce qui s'est passé dans la vie des croyants. Ça fait mal au cœur quand même, mais ça exprime bien eh bien, ce qui se passe. Psaume 107, versets 4 et 5. Ce soir, peut-être avant de vous endormir, vous réfléchirez à cela. Et vous verrez que ce sont des croyants. Qu'est-il dit de ces croyants? Verset 4 du psaume 107. Ils erraient dans le désert. Ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif. Et j'ai souligné la suite, leur âme était languissante. Voyez, quand on commence à résister à Dieu, à ne pas écouter Dieu, à en faire à sa tête, je pensais au premier qu'il a fait, à Caïn. Caïn qui, vous savez, quand Dieu lui a parlé, et quand Dieu lui a dit, mais le péché se couche à ta porte, est-ce que tu fais bien de t'irriter? Quand même, Dieu s'est intéressé à lui, malgré le fait qu'il avait offert un sacrifice à sa guise, et ça n'avait pas plu à Dieu, mais Dieu a pris soin de s'occuper de lui, mais est-ce que tu fais bien de t'irriter? Domine le péché, tu verras, tu vas t'en sortir. Je le caricature en français moderne, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Et Caïn a choisi de résister à Dieu, et nous a dit qu'il a erré, sur la terre. Pourtant, il aurait pu avoir une bénédiction extraordinaire. Et toute sa vie, il a erré. Et là, nous venons de lire dans le psaume 107 cette évidence. Voilà ce qui se passe lorsqu'on ne prend pas soin de réfléchir, de s'appliquer à la façon dont on doit s'occuper de son âme. Voyez, on prend soin de son corps. Il y a des femmes pour changer le canapé. C'est sûr qu'il va falloir prendre le meilleur. Mais vous avez raison, si vous pouvez. Ne vivez pas au-dessus de vos moyens. Mais si vous pouvez faire certaines choses pour votre corps, faites-le. Mais pour votre âme, Moi, je suis peiné lorsque je vois tant et tant de chrétiens qui errent dans le désert. Ils sont là dans la tristesse, dans l'angoisse. Il y a des moments de détresse. Il y a des déserts. Mais le désert, le peuple d'Israël aurait pu le traverser en 3 semaines. Enfin, tous les livres que j'ai lus, moi, tous les bouquins que j'ai lus sur la traversée du désert, l'Exode, etc., indiquent tous à peu près, à moyenne, qu'ils auraient dû mettre 3 semaines pour traverser le désert. 3 semaines. Bon, c'était 3 semaines que Dieu permettait. 3 semaines, un mois. Et ils y sont restés combien de temps ? 40 ans. Ça vous indique exactement ce qu'on peut vivre. Dieu peut permettre que nous traversions un certain désert, parce qu'il faut, pour apprendre à avoir soif, pour apprendre plein de trucs. Ce n'est pas le sujet de la méditation. Mais Dieu permet que nous traversions des déserts. Mais que Dieu permette qu'on traverse un désert 3 semaines, c'est une chose. Mais que nous, à cause de notre négligence, on s'impose 40 ans de désert, vous avouerez que ça fait quand même dommage. Voilà le témoignage triste de ceux qui n'écoutent pas ce qu'ils devraient faire. Et j'ai bien peur de ça, moi, que parmi les chrétiens, il y a beaucoup de gens qui errent dans ce désert spirituel. Ils souffrent de la faim, vous avez vu, ils souffrent de la faim, de la soif. Leur âme était languissante. Et pourtant, ce refuge existe. Vous croyez que Jésus est un refuge? Vous croyez qu'il est le sauveur du monde? Bon, c'est déjà, ça serait merveilleux s'il y avait la moitié de la population à Toulouse qui confessait que Jésus est le sauveur. On dirait, bon, ils sont sauvés, ils ont accepté Jésus-Christ. Bon, ils ne connaissent pas encore que Jésus est le refuge. Mais quand même, c'est des étapes obligatoires par lesquelles un chrétien avance. Il doit découvrir que Jésus est le sauveur. Il doit surtout découvrir que Jésus, après, doit devenir le Seigneur. Et que ce Seigneur est un refuge. Et que nous sommes continuellement, invités à y rentrer. Et je soupçonne le Seigneur d'avoir voulu faire en sorte que nous prenions la Sainte Cène tous les dimanches. Pour qu'on puisse justement accepter l'invitation qu'il nous fait. Car qu'est-ce que c'est la Sainte Cène? Bien sûr qu'on se rappelle les souffrances, ce petit peu de pain. Je ne sais pas moi comment vous vivez la Sainte Cène, mais vous le voyez, ce petit peu de pain coupé là, ça vous rappelle le corps brisé, ce petit peu de vin vous rappelle le sang versé. C'est extraordinaire la Sainte Cène. Mais je soupçonne Dieu qu'il y a plus que le rappel de son sacrifice, c'est une invitation de plus à ce qu'il soit vraiment notre refuge. On voit bien que le souci du Seigneur, ça a été toujours, toujours de nous inviter. Vous regardez jusqu'à l'Apocalypse, à la fin, mais si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre et j'entrerai et on soupe. On voit, lisez le Jean chapitre 15. Si vous lisez Jean, méditez ce soir Jean chapitre 15. Après cette prédication, méditez Jean chapitre 15. Le nombre de fois où Jésus dit, mais demeurez à moi et je demeurerai en vous. On voit que, mais pourtant il va mourir, on va l'abandonner, on va le renier, etc. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend encore le temps de dire, mais n'oubliez pas, je suis votre refuge. Et ça vaut la peine, comme on le fait maintenant. Mais il ne faut pas le faire que dans un moment, entre guillemets, religieux. Il faut le faire tout le temps. Ça vaut la peine de savoir à quoi correspondent toutes les grâces, les bénédictions, les faveurs d'avoir Dieu pour refuge. D'avoir Dieu pour sauveur. Est-ce que c'est bien? C'est extraordinaire, c'est génial. Mais d'avoir Dieu pour refuge, est-ce que je suis conscient des bénédictions. Est-ce qu'un SDF peut être chrétien? Ben oui. Donc, quelqu'un qui n'a pas de refuge physique, matériel, peut avoir Dieu pour refuge. Vous êtes d'accord? Mais c'est valable, l'inverse est vrai. Est-ce qu'un riche chrétien peut ne pas avoir Dieu pour refuge? Ben oui. Et vous le comprenez, avec le peu que je viens de vous dire maintenant. Et ça vaudrait la peine, voyez, de prendre les psaumes, le psaume 91, ça suffit. Le psaume 91, et de le méditer. Quelles sont les bénédictions qui découlent d'avoir Dieu pour refuge? Quelles sont les conséquences, les tristes conséquences qui découlent de ne pas avoir Dieu pour refuge? Parce qu'on peut dire ce qu'on voudra. Vous savez, moi j'en entends de toutes. Comme vous d'ailleurs, vous devez en entendre de toutes, en fonction des gens avec qui vous parlez. Mais au fur et à mesure que nous avançons, vous avez certainement fait cette même expérience que j'ai pu faire, c'est que vous vous rendez compte au fur et à mesure que vous marchez avec Dieu, que votre âme, elle est faite pour Dieu. On est fait pour Dieu. Bien sûr que ça se discute, les gens du monde vont dire, mais non, on n'a pas besoin de Dieu, chacun peut dire la sienne, etc. Mais enfin, quand on lit la Bible, on voit que nous sommes faits pour Dieu et qu'on ne peut avoir la paix qu'avec Dieu, pas avec une religion, pas en étant pentecôtiste. On a la paix quand Jésus est notre sauveur et notre Seigneur. Vous avez vu ce psaume, je ne sais plus où c'est écrit, je l'ai marqué sur mes notes, mais le cœur de l'homme est un abîme. Si vous saviez, moi, comment Dieu m'a parlé par ce verset. Le cœur de l'homme est un abîme. Et un abîme, vous ne pouvez pas le remplir. Vous ne pouvez pas le remplir. Vous pouvez mettre 3 ou 4 Ferrari, 3 ou 4 BMW dedans, mettre 2 ou 3 châteaux, il ne sera jamais plus rempli. Un abîme, il n'y a rien qui peut le remplir, sinon la présence de Dieu. C'est pour ça que les gens du monde, et c'est pour ça que les riches sont malheureux. Je lisais dans l'Ecclésiaste, le riche ne profite pas de sa richesse. Et heureusement, parce que Dieu serait injuste. Est-ce que vous comprenez? Des fois, mais comment ça se fait? Ce gars avec tout l'argent qu'il a, il devait être heureux. Ben non. Et ça fait partie de la justice de Dieu, ce n'est pas le sujet de ce matin, mais c'est pour que vous compreniez bien qu'il n'y a que Dieu qui, par son infinie présence, peut combler l'abîme de notre cœur qui a tant besoin d'être apaisé. Et tant que nous refusons d'entrer dans ce refuge, nous ne connaîtrons pas le repos. Vous entendez, comme moi, à des reportages télévisés, qu'il y a des SDF qui refusent d'aller dans des refuges. Vous l'avez jamais entendu, ça? Pour maintes raisons. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et je pense que certains ont raison par rapport à ce qu'ils vivent. Mais ils refusent d'entrer dans un refuge. Parce que certains, il faut qu'ils se lèvent le matin à 7 heures. Moi, c'est sûr que nous, ça nous fait peur, ces choses-là. Mais franchement, vous avez là l'image de certains chrétiens qui refusent d'avoir Dieu pour refuge, ce qui explique tous ces malaises, je ne parle pas d'épreuves, tous ces malaises spirituels qu'ils pourraient bien sûr éviter. C'est David qui dit dans un psaume, « Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel ». On voit qu'il a besoin de retrouver Dieu son refuge, parce que des fois on s'en éloigne de ce refuge. Oui ou non? Est-ce que vous êtes toujours au top niveau spirituellement? Répondez-moi, est-ce que vous êtes toujours au top niveau? Et non, on a tous des moments difficiles. C'est pour ça que, vous voyez, David dit, mais mon âme aspire. Pourtant, c'est un homme qui était habitué à se retrouver dans la présence de Dieu. Mais par certains de ses psaumes, on voit qu'il s'en est éloigné. Et il exprime à Dieu son besoin de retrouver cette communion. Alors vous, comment définissez-vous le refuge? Si demain, vous, un croyant, tiens, si vous posez la question, vous étiez hier matin, ah ben j'étais dans une église, on a parlé de Jésus qui pouvait être un refuge. Un refuge, alors c'est quoi pourtant un refuge? Je ne sais pas comment ils sont les inconvertis aujourd'hui, comment ils vous parlent au travail, comment vous répondriez? Qu'est-ce que c'est pour vous le refuge? Qu'est-ce que vous répondriez à quelqu'un? Qu'est-ce que vous diriez? Qu'est-ce que vous diriez? Ah ben un refuge, c'est pour moi, c'est un blocos. Vous avez déjà vu des blocos au bord de la mer, dans certains endroits? Est-ce que vous avez vu des blocos? Un blocos? Vous savez, ces gros bâtiments en béton armé, là, épais d'un mètre, avec une petite fenêtre pour être à l'abri de l'ennemi. Est-ce que c'est une bonne image? Est-ce que c'est une bonne image? Non, ce n'est pas une bonne image. Et pourtant, c'est quand même aussi une image. D'avoir cette profonde conviction qu'on est à l'abri des attaques de l'ennemi. Un refuge, pour vous, c'est quoi? Il vous faut m'aider parce que... C'est un chalet? Un chalet, eh ouais. Chaque année, moi, si vous regardez au printemps, vous avez entendu, parce que vous écoutez les infos comme moi, on entend que, tiens, à la Fonte des Neiges, on a trouvé un gars qui était mort à 50 mètres d'un refuge. Vous l'avez entendu, ça? Vous voyez? Mais ce sont des images impeccables, hélas, impeccables, pour expliquer ce que certains chrétiens sont en train de vivre. Ils meurent, ils errent, alors que le refuge est à portée de main, et ils ne le voient pas parce que leur foi est en train de mourir. Mais David exprime bien, je vous lisais tout à l'heure de Samuel 22, 2 à 3, « Et l'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon bouclier, ma force, ma haute retraite. » Alors l'idée que vous vous faites d'une forteresse, c'est important. C'est important parce que si vous dites « Oui, il est mon refuge », ce matin, on l'a chanté que Dieu était notre refuge. Est-ce que vous l'avez chanté? Vous l'avez chanté? C'était le deuxième cantique. Vous le mettez, s'il vous plaît, Brice. On l'a chanté, tiens donc. On a chanté la prédication. Voilà, stop, merci. Vous montez un peu? Voilà, stop. Mon abri, mon refuge. Vous l'avez chanté? À part ceux qui sont arrivés en retard. Vous l'avez chanté? Mon refuge, mon abri, mon refuge. On l'a chanté. Pourquoi j'ai demandé à ce que Brice le présente sur la vidéo? Pour que nous comprenions bien que nous pouvons faire et dire et vivre certaines choses d'une manière religieuse. C'est religieux de le chanter. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça peut être très religieux de chanter mon rocher, mon refuge. Et de ne pas le vivre au quotidien. Dieu a permis qu'on puisse chanter ce cantique qui est vraiment en adéquation avec la prédication. Parce que, on le voit dans la détresse. Il y a des moments difficiles. Vous traversez des moments difficiles, vous? Est-ce que ça vous arrive? Est-ce qu'il y a des épreuves? Est-ce qu'il y a du chagrin? Oui. Et toute la parole de Dieu nous indique qu'il y a des chagrins. J'en ai parlé l'autre jour, quand Jacob a été appelé Israël, c'était le top niveau de... Est-ce que vous aimeriez, vous, que Dieu vous dise, écoute, Michael, tu t'appelleras plus Michael, quoique Michael, c'est bien, mais tu t'appelleras Gérard, tu t'appelleras Israël. Qu'est-ce que vous diriez? Si Dieu vous disait Brice, tu t'appelleras plus Brice, tu t'appelleras Israël. Est-ce que c'est une grâce? Ben oui, ça prouve qu'on a vraiment fait des progrès. C'est clair que ça prouve qu'on a appris la leçon, qu'on a laissé certaines choses pour que Dieu puisse mettre les choses, les siennes à sa place. Mais est-ce que ça empêchait qu'il ait des épreuves après? Non, mais lisez après Genèse 32, c'est hallucinant toutes les épreuves qu'il a traversées. Donc, il faut bien comprendre quelque chose. Il y a des épreuves. Il y aura des épreuves. C'est de la malhonnêteté de dire maintenant que vous êtes chrétien, vous n'aurez plus d'épreuves. On a un vieux cantique, on n'a plus de fardeau, plus d'ennui, plus de tristesse. On le chante des fois. Moi, ça me... Bon, parce que tout le reste est bien dans ce cantique. Mais je comprends dans quel état d'esprit il a été écrit. Il a été écrit, c'est vrai que quand on est chrétien, il y a plein de choses qui ne nous préoccupent plus. Mais quand même, quand on est chrétien, on a de la tristesse. On a des chagrins, on a des épreuves. Alors, il faut comprendre ce que Dieu veut dire. S'il devient notre refuge, notre âme sera en paix. Et c'est ce que je voudrais que nous comprenions bien. Notre âme sera en paix. Comment parlez-vous de ce refuge? Comment parlez-vous de Jésus? Comment avez-vous chanté ce cantique, mon abri, mon refuge? Est-ce que c'est, comme je le disais tout à l'heure, une façon de parler parce qu'on est devenu chrétien? Parce que tous les chrétiens parlent de la même manière. Après tout, on est chrétien, on parle, on peut dire alléluia, alléluia, on peut le dire pas. Est-ce qu'on peut dire alléluia par routine? Est-ce qu'on peut rendre grâce par routine? Mais bien sûr, alors ne jugeons pas, ne soyons pas bêtes à ce point. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut passer à côté de certaines grâces parce qu'on est devenu religieux. Les chrétiens parlent comme ça, alors ben moi je me mets aussi à parler comme ça. Et il faut veiller à ça. Les chrétiens disent alléluia, ben je dis alléluia. J'avais entendu, j'avais trouvé ça mais d'un ridicule pas possible, que dans une église, on évaluait la spiritualité de quelqu'un à la quantité de alléluia qu'il disait pendant le culte, fort. Voyez? Donc si Jérémie a dit alléluia 20 fois pendant la prédication et que Brice l'a dit que 10 fois, bon ben c'est quand même assez clair. Il n'y a pas photo, c'est Michael, c'est Jérémie qui est plus spirituel. Tu es d'accord, Jérémie? Mais c'est ce qui est arrivé dans des églises. Alors, ça nous fait rire, tellement c'est bête, mais c'est arrivé dans des églises. Je vous assure que c'est vrai. Et je crois que nous devons faire attention. Ce n'est pas parce que les chrétiens ont un certain langage qu'il faut les imiter, il faut vivre ce que Dieu veut que nous vivions. Et le psaume 91 est assez précis. Moi, je trouve qu'il est assez précis pour que nous comprenions ce qu'est le refuge de Dieu. Donc, l'idée d'une forteresse, certains... Moi, la première fois que j'ai lu le psaume 91, j'imaginais ces blocos que je voyais quand on allait à la mer. Là-bas, du côté de Agde, il y avait des blocos. Maintenant, ils ont été enlevés. Mais il y avait des gros blocos qui dataient de la guerre 45. Voilà, je me faisais une idée. Et c'est quand même l'idée un peu froide de la forteresse. Alors que, regardez avec moi dans le psaume 91, ce que Dieu veut que nous comprenions. Quelle est l'idée que nous devons nous faire de la forteresse de Dieu? Voyez, alors la forteresse, et puis après, au verset 3, il dit, c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Vous savez, vous savez pas, est-ce que vous avez déjà vu les filets de l'oiseleur? Moi, j'en ai vu qu'à la télé. C'est des filets qui sont dans les arbres, tendus dans les arbres. C'est de couleur vert, comme les arbres. Ça fait que les oiseaux, ils volent. Et quand ils le voient, c'est trop tard. Quand les oiseaux voient le filet, ils le voient donc juste un mètre avant, c'est trop tard, ils sont pris dedans. Et je crois qu'il y a bien des pièges où Dieu nous a délivrés. Que son nom soit béni. Que de foi Dieu nous a gardés, mes frères et sœurs. Que de foi Dieu nous a gardés. C'est lui qui te délivre du filet de la douleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes. Ah, là c'est une autre image que d'une forteresse. Mais quelle belle image. Il te couvrira de ses plumes. Tu trouveras un refuge sous ses ailes. Ah, voilà l'image qui nous convient le mieux. Il te couvrira de ses plumes. Avec le temps qu'il fait actuellement, hein, vous avez peut-être mis une belle couette dans votre lit. Voilà, c'est l'image. Le corps, mais le corps, on le fait systématiquement. C'est pas vrai, le corps, on le fait, on aime le faire. Est-ce que vous rajoutez une couverture quand il fait froid? Je ne sais pas comment vous faites. Est-ce que vous montez le chauffage? Vous voyez le corps comme on aime le bichonner. Mais mes frères et sœurs, si on bichonnait notre âme, comme on est capable, c'est sain et saïenne, de bichonner notre corps, je peux vous dire que beaucoup de chrétiens rendraient un excellent témoignage de ce que c'est être un croyant vraiment avec le Seigneur. Quelle image! Il te couvrira sous ses plumes. Tu trouveras un refuge sous ses ailes. Vous avez vu? Que dit le psaume? Qu'est-ce qu'il dit? Verset 5. Tu ne craindras rien. Ça vous rappelle pas un psaume? Quel lequel? Le psaume 23, quand il est dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre. C'est une épreuve, ça. C'est une épreuve ou c'est pas une épreuve? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Certains disent que c'est les moments les plus difficiles qu'on doit traverser. Certains disent que c'est le moment où on va mourir. C'est pas grave, les deux sont bons, je veux dire. Mais quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Voilà le témoignage de quelqu'un qui a compris que Jésus n'est pas, et ce n'est pas péjoratif, n'est pas que le sauveur, n'est pas que le Seigneur de l'univers, il est votre refuge, celui qui vous couvre, celui qui vous garde, celui qui vous protège. Quelle image! Quelle image! J'ai déjà parlé de la mère poule qui protège ses poussins. C'est pas une belle image? Qui c'est qui a créé ça? Vous avez pas vu dans des reportages télévisés ces animaux sauvages qui d'un coup de patte pourraient vous déchirer? Comment ils font avec leur bébé? Comment ils les protègent? Qui c'est qui a voulu ça? C'est Dieu. Qui c'est qui nous a donné ces images? Qui c'est qui nous a laissé ces images? Alors la question qu'il faut se poser est celle-ci. Est-ce que les bras d'une mère, est-ce que les bras de Dieu sont moins bons que les bras d'une mère? Est-ce que la chaleur de la poule est plus grande que la protection de Dieu? C'est une question. Quand de moi certains chrétiens, on peut se poser la question. Est-ce que vous croyez que la tendresse de Dieu peut être plus grande que la tendresse d'une maman? Est-ce que la chaleur de Dieu peut être plus belle que la chaleur d'une mère poule? Eh bien sûr. Mais il nous a laissé ces images pour qu'on puisse vraiment comprendre. Et la question que je nous pose ce matin, car c'est une question, il faut la poser. Avons-nous fait du Seigneur notre refuge? Ou est-ce que c'est quelque chose de religieux que nous chantons, que nous imitons, parce que les autres chrétiens l'expriment? Il faut que vous répondiez à cette question. Jésus est-il votre refuge? C'est la question qu'on aurait pu mettre même en titre. Avez-vous fait du Seigneur votre haute retraite? Vous devez répondre. Ne répondez pas à haute voix, je ne veux pas. Mais franchement, si nous sommes sérieux, car nous abordons un sujet, ça fait depuis ma reprise que j'ai abordé ce sujet, donc depuis le début décembre, je veux nous amener à cette prise de conscience de la grâce que nous avons d'être chrétiens. C'est une grâce d'être chrétien. Est-ce que je peux dire ce matin, oui, Jésus est vraiment mon refuge? Si Jésus est mon refuge, je crois qu'on me dise les psaumes, comme je l'expérimente, comme nous l'expérimentons. Je crois que nous serons délivrés de toutes ces craintes, de ces peurs du lendemain. Vous avez vu les infos? Ça fait pitié quand même. Est-ce que ce n'est pas un signe du prochain retour du Seigneur? Moi quand même, je ne suis pas focalisé là-dessus, mais quand même, je crois quand même que Jésus revient bientôt. Quand vous verrez ces choses, qu'est-ce qu'il a dit? Que votre cœur ne se trouble point. Il l'a dit ou il ne l'a pas dit? Quand vous verrez toutes ces choses, il faut que ces choses arrivent. Alors bien sûr, ne devenons pas fatalistes en disant ben, c'est comme ça, ça doit arriver, Inch'Allah. Non, sérieusement, ça doit arriver Mais je prie. Je prie pour ces soldats qui sont au Mali. Car je crois que Dieu peut les bénir. Et qu'ils peuvent crier à Dieu. Est-ce que des soldats peuvent se convertir au Mali? Et oui, est-ce que des soldats peuvent se convertir en Côte d'Ivoire, etc. Mais bien sûr. Et ne devenons pas fatalistes, soyons soucieux de supplier Dieu que dans ces épreuves que les gens traversent, même si elles doivent arriver, eh bien nous devons soutenir ces frères et ces sœurs, ou ces gens qui peuvent devenir nos frères et nos sœurs. Oui, c'est important d'être délivré de la crainte. C'est important de comprendre pourquoi David... Est-ce que David a eu des craintes? Est-ce qu'on voit David avoir la crainte? Ben oui, mais voyez... Quand Jésus était son berger, quand Jésus était son refuge, il disait « je ne craindrai rien ». Quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, vous ne savez pas quand est-ce que Dieu va vous reprendre? Quand est-ce que Dieu va vous reprendre? Peut-être qu'il va nous reprendre tous ensemble, à l'enlèvement, peut-être qu'il va nous reprendre dans 2 heures, peut-être qu'il va nous reprendre dans 20 ans, mais au moment où Dieu vous reprendra, l'ange de l'Éternel vous soutiendra. Vous le croyez qu'à l'épreuve voulue, au moment voulu, mais certains l'ont vécu. Moi, je l'ai vécu dans mon AVC, mais c'est une grâce de croire que en toute chose, Dieu nous soutient et que nous n'avons rien à craindre. Oui, oui, nous aurons des épreuves. Je le répète parce qu'il y a des gens, il y a un enseignement qui circule dans nos églises, même dans nos assemblées, où on vous dit que si vous avez une foi qui augmente, vous n'aurez plus d'épreuves. Ce n'est pas vrai. Pierre dit, mais armez-vous de la pensée de souffrir. Il y a de la souffrance, parce qu'on est dans un monde qui a rejeté Dieu. Nous aurons, notre corps subira des épreuves. Le corps, vous ne trouvez pas qu'en vieillissant, il se déglingue un peu? Non? Les jeunes vont vous... Mais vous ne trouvez pas qu'en vieillissant, les personnes âgées, vous auriez pu répondre? Est-ce que, franchement, quand on vieillit, le corps ne se déglingue pas? Ben oui! C'est pas vrai, monsieur Dieu? Hein? Ben oui! Ben mais le corps subira des épreuves. Notre vie, physique, nos biens... Bien sûr que nous pouvons perdre certaines choses, oui ou non, mais bien sûr, etc. Mais dans notre être intérieur, dans notre âme, nous pouvons demeurer continuellement en Dieu. C'est important. Alors, c'est vrai que, en tant que pasteur, et même dans ma propre expérience, il nous arrive parfois d'être négatif, et d'entendre ou de dire « Ah, et si ça m'arrive à moi ? Et si je perds mon boulot ?» Est-ce que c'est des questions qui peuvent arriver? Et si je perds mon travail? Et si je perds la santé? Et si je venais à perdre mon conjoint? Est-ce que ça peut arriver qu'on se pose la question? Est-ce que ça peut arriver? Et bien sûr, supposons que... Il y a des gens, ils vivent toute leur vie avec des supposons. Supposons que si notre âme, même si c'est normal que ces choses soient prononcées, mais je suis convaincu, que si notre âme habite dans le refuge de Dieu, si nous sommes à l'abri de ses ailes, si nous sommes, comme dit le psalmiste, dans son sein, si nous sommes couverts de ses plumes, tous ces supposons que et ces si disparaîtront. Je le crois vraiment. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, on voit quelque chose, on n'y pense pas, ça peut arriver, mais je suis persuadé que lorsque Dieu est notre refuge, tous les supposons que disparaissent. Nous ne craindrons aucun mal, même si notre corps, nos biens, certains aspects physiques, etc., ou matériels, peuvent être affectés. C'est ce qu'exprime, je l'ai dit, le psaume 23. Quand il dit oui, 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 dans la Bible, ça veut dire, c'est la grâce de Dieu. C'est pas, si ce n'est pas la grâce de Dieu, ça serait non. Mais là, il dit oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Alors est-ce que ça veut dire, ouais, voilà, c'est formidable, l'Éternel est mon berger, j'aurai plus de problèmes? Non, ça veut dire qu'à cause de la grâce de Dieu, le bonheur et la grâce m'accompagneront. David, est-ce que le bonheur l'a accompagné à David? Est-ce que la grâce l'a accompagné? Parlons de grâce. Est-ce que la grâce l'a accompagné? Quand il a tué Goliath, est-ce que la grâce l'a accompagné? Est-ce que c'était bien pour David, cette expérience? Est-ce que c'était une grâce de viser juste? Parce que bon, quand même, c'était une expérience. C'est quelque chose. Imaginez-vous l'affaire. Est-ce que c'était une grâce que la pierre rentre dans le front? Est-ce que c'était une grâce de rester humble après cette affaire? Est-ce que c'est une grâce? Mais David, il n'a pas fait que des exploits. David, il a fait aussi des bêtises et des péchés. Il a trompé sa femme. Il a fait tuer un de ses officiers. Est-ce que la grâce de Dieu a été avec lui? Eh bien oui, parce qu'il s'est repenti. Et dans les bénédictions, la grâce de Dieu était avec lui. Dans les échecs, la grâce de Dieu a été avec lui. C'est ça que ça veut dire. Oui, la grâce m'accompagnera tous les jours de ma vie. Oui, j'aurai des échecs. Oui, j'aurai des bénédictions. Mais la grâce de Dieu m'accompagnera. Et on voit, si on prenait le temps, on voit ce que cela veut dire d'avoir Dieu pour refuge. Alors, je termine avec la question. Si vous avez remarqué, je termine à peu près chaque culte de la même façon, pour vous aider, pour nous aider. Mais comment habiter dans ce refuge? Comment? Eh bien, par la foi. Ça sera toujours par la foi. Parce qu'il y a plusieurs façons d'être dans une maison. On peut y résider, ou on peut y passer de temps en temps. Vous êtes d'accord avec moi? Dans votre maison, vous y êtes tous les jours? Non, mais à peu près. Vous y allez tous les jours. Vous y dormez toutes les nuits. Vous êtes d'accord? Vous habitez chez vous, dans votre maison. Mais spirituellement, il y a des chrétiens qui n'habitent pas avec Dieu. Et de temps en temps, une petite visite. Et c'est l'image de certains qui viennent une fois par an, deux fois par an, trois fois par an. Il y a des gens qui disent, oh, monsieur, ça vous fait rien que je vienne que deux ou trois fois par an? Je dis, mais c'est votre problème. Mais voyez, mais spirituellement, il y a des gens qui font de la même manière avec Dieu. Mais ce n'est pas une question de locaux. Ce n'est pas une question d'habitation, c'est un état d'esprit. Tout à l'heure dans la rue, votre âme peut habiter en Dieu, doit habiter en Dieu. Et ça se passe par la foi. Comment entrer dans ce refuge? Ou comment re-entrer dans ce refuge? Il faut y aménager. Dans une maison, on aménage, on déménage, il faut des papiers. Jérémy a déménagé cette semaine, je suppose qu'il a fait un bail, des papiers, etc. On le sait, quand on veut habiter dans une maison, il y a des papiers à faire, il y a des choses à faire, et on les fait parce qu'on veut pouvoir habiter dans une maison et ne pas dormir dehors. Eh bien, spirituellement, c'est par la foi. Ça se fait par la foi. Je dis à l'Éternel, Seigneur, tu es mon refuge. Je me réfugie spirituellement dans ta présence. En toi, je me confie. Vous êtes au psaume 91? Regardez le verset 2. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Tout le psaume 91 dépend de cela. Comme le psaume 23, je l'ai dit il y a 8 jours ou 15 jours, dépend de « il restaure mon âme ». Si vous laissez la parole de Dieu vous nourrir, vous pouvez dire « le Seigneur est mon berger ». Si vous faites confiance à Dieu, vous pouvez dire « oui, Jésus est mon refuge ». Je le crois, je le vis. La foi, c'est pas... La foi, j'entends tellement de bêtises sur la foi. La foi, c'est une conviction. Je sais que ce que Dieu a dit est vrai. Si Dieu tant et tant de fois s'applique à nous inviter, à nous dire qu'il doit être notre refuge, eh bien c'est ce qu'il veut. La foi, c'est une affirmation. Je crois. Est-ce que ces choses spirituelles sont plus fortes que ce que vous voyez? On voit des choses. Vous avez vu la neige ce matin. C'est beau la neige. Mais les choses que vous ne voyez pas, est-ce qu'elles sont plus fortes dans votre cœur que les choses que vous voyez? Moi, je peux vous dire que oui. Franchement, c'est la vérité, c'est pas de l'orgueil, c'est vraiment la vérité. Parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. Quand la Bible parle des nouveaux cieux et de la nouvelle terre, vous les avez vus, vous, les nouveaux cieux et la nouvelle terre? Non. Est-ce que vous y croyez, aux nouveaux cieux et aux nouvelles terres? Vous êtes sûr, c'est pas une blague du Seigneur? C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais vous comprenez bien que ça ne peut pas être autrement. La foi, c'est une affirmation, mais c'est également une action dans notre cœur. Je le confesse. Pourquoi il est dit, c'est lui qui confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Voilà, il est sauvé. La foi doit s'affirmer. La foi doit devenir une action. C'est un fait, la foi. Il est mon refuge. Voilà, ce local est devenu notre église. C'est notre église. On le voit, on le touche, on le réalise. On est là, notre corps est à l'abri. Vous allez voir tout à l'heure, comment ça sortir la différence. Comment vous allez vite, vite, vite aller à la maison. Mais spirituellement, est-ce que vous pouvez dire « oui, Jésus est mon refuge » ? Est-ce que vos pensées, parce qu'on a vu dimanche dernier qu'il n'y a pas que le péché qui nous éloigne de Dieu. Nos pensées peuvent nous éloigner de Dieu. Nous, on est archi exigeants là-dessus. Hein? Mais nos pensées doivent être conformes à ce que Dieu dit. Dieu dit qu'il veut être mon refuge, et bien Dieu sera mon refuge. Il n'est pas possible que l'inquiétude habite dans le refuge de Dieu. Dans votre maison, il y a des choses que vous ne tolérerez pas. C'est vrai ou c'est pas vrai? Vous ne les accepterez pas. Quand une maison est bien chauffée, c'est la palisse l'aurait dit, s'il fait 23 degrés dans la maison, il ne peut pas faire moins 5. Eh bien, c'est pareil. Quand vous habitez dans le refuge de Dieu, il ne peut pas y avoir d'inquiétude. Alors, je voudrais terminer avec une pensée. Nous sommes très, très, très soucieux de l'obéissance au commandement extérieur. Je pense que tous les chrétiens, j'espère que tous les chrétiens sont soucieux et font attention au commandement extérieur, du style « tu ne voleras pas ». Est-ce que c'est important pour vous ? Tu ne voleras pas. Tu ne commettras pas d'adultère. Les hommes et les femmes mariés, est-ce que c'est important pour vous ? Ben, j'espère. Mais il me semble qu'on veille, je ne sais pas vous, mais moi il y a des choses, je m'en garde mais comme la peste. Parce que c'est des commandements extérieurs. On y fait très très attention. Mais dites-moi, d'où cela vient-il que nous soyons si légers avec tous les commandements qui sont liés à l'intérieur? Il y a des choses, on ne le sait pas. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Quand quelqu'un s'inquiète, il peut le cacher qu'il s'inquiète. Ça ne se voit pas, il peut le cacher. Oh ben, on peut le cacher, tu ne sais pas ce qui se passe. D'ailleurs, les gens savent le dire. Tu ne sais pas ce que je suis en train de vivre. Oui, parce qu'on peut le cacher. Alors, c'est excellent de faire attention à tous les devoirs extérieurs. Tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Dieu l'a dit, je le fais. Mais notre vie intérieure, que votre cœur ne se trouble point. Est-ce que ce n'est pas un commandement du Seigneur? Tu ne commettras pas l'adultère. C'est un commandement du Seigneur. Et j'espère que les chrétiens ont veillé à cela. Mais je voudrais savoir combien parmi nous n'ont pas veillé à ce seul commandement que j'appelle un commandement intérieur, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Qui ne l'a jamais vraiment transgressé? Moi, je l'ai transgressé. Combien de fois j'ai été inquiet pour un truc? Combien de fois? Moi, j'ai passé des années, c'est pas des mois, là, je vais loin. Ça serait trop long pour en parler. De toute façon, je sais que vous me comprenez très bien, parce que vous avez tous vécu la même chose. Mais nous avons transgressé ce commandement. Pourquoi? Eh bien, parce que nous l'avons mis comme un second plan. L'adultère, le vol, je sais pas, moi, tous les trucs extérieurs, c'est archi important. Mais pourquoi nous n'avons pas été intelligents pour comprendre que c'est pareil, que les commandements intérieurs, il faut que nous y veillons? Je vais vous poser une question. Vous qui avez des enfants, vous avez des enfants? Oui, qui a des enfants? Vous avez des enfants? Bon. Il y en a qui n'en ont pas? Non? Bon. Non, mais écoutez bien la question. Vous avez un enfant. C'est un adolescent. C'est un adolescent. Écoutez bien, vous allez comprendre. Parce qu'il n'y a rien de mieux, je crois, que des images avec les enfants pour comprendre les choses de l'Évangile. Vous avez un enfant, vous allez me répondre, qu'est-ce que vous préféreriez? Est-ce que vous préférez que votre fils, qui a maintenant 15 ans, parce qu'il a commis quelques péchés, il a été tenté, comme chacun des enfants, et il a désobéi quelques fois. D'accord? Il a péché. Ça ne vous a pas fait plaisir? Oui ou non? Bon. Vous préférez ça? Ou vous préféreriez apprendre que votre fils, qui a 15 ans, et quelques secondes, ne vous ait jamais fait confiance? Vous discutez, quelqu'un vous dit, tu sais, ton fils, il n'a jamais eu confiance en toi. Qu'est-ce que vous préférez? Qu'il ait jamais eu confiance en vous? Ou que de temps en temps, parce que bon, il y a eu des tentations, parce qu'il y a eu, il ait commis quelques péchés, et qu'il a demandé pardon à Dieu. Qu'est-ce que vous préférez? Et vous n'avez pas répondu. Qu'est-ce que vous préférez? Oui, bien sûr. Mon épouse, elle a répondu. Bien sûr, il vaut mieux rien du tout, d'accord. Mais je vous ai demandé de choisir entre les deux. Et toi aussi, ma femme. Mais mes frères et sœurs, franchement, vous ne seriez pas malheureux si vous appreniez que votre fils vous a jamais fait confiance? Est-ce que vous ne seriez pas malheureux? Ben voyez, c'est quand même ce qui doit se passer quand même dans le cœur du Seigneur. Je crois que, bien sûr, il faut faire gaffe à ne pas pécher. Il faut faire attention à ne pas pécher. Et que si dans un moment de difficile, on a combien péché, réparons-le vite, 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 vite. Mais je crois que nous avons souvent blessé le cœur du Seigneur parce que nous ne lui avons pas fait confiance. Et moi, les émotions de Dieu, je n'arrive pas à en parler. C'est tellement délicat. Mais la Bible en parle quand même. On peut blesser le cœur du Seigneur. Et je crois qu'il n'y a rien de plus beau que de lui faire vraiment confiance. Oui, Seigneur, j'ai commis un péché. J'ai commis un péché, je te demande pardon. Mais Seigneur, je veux te faire confiance en toutes choses. Je veux vivre ce que je chante, mon refuge. Tu es ma forteresse. Je me confie en toi. Je ne veux plus transgresser ce commandement. Je ne me rendais pas compte à quel point j'ai pu t'affliger. Oui, je sais, chaque péché extérieur, je les règle parce qu'on ne peut pas faire autrement. C'est en plus. Mais les problèmes intérieurs, on devrait les régler. Et dire, Seigneur, je choisis de te faire confiance. Je veux te faire confiance. Est-ce que vous faites partie de ces chrétiens-là? Est-ce qu'on peut se permettre de douter de Dieu? Que vous doutiez de vous? Ben oui. Que nous doutions de nous-mêmes? Ben d'accord. Ce serait grave presque d'avoir une trop grande confiance en soi, mais de douter de Dieu. Vous rappelez cette parole que j'ai citée dans ces prédications? Combien de fois Jésus a dit en pleurant, combien de fois ai-je voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Moi j'ai voulu. Combien de fois ai-je voulu et vous n'avez pas voulu? On voit bien que Dieu veut et que nous, on ne veut pas. Alors, les inconvertis, qu'est-ce qu'ils pensent les inconvertis? Quand ils voient des chrétiens, tant de chrétiens qui vivent dans l'anxiété, je ne parle pas d'épreuves, je pense que vous l'avez compris, qui vivent dans l'anxiété, comment doivent-ils penser ces inconvertis quand on leur dit, tu sais, mais il te faut tout déposer au pied du Seigneur. Moi, j'ai vu des gens parler à des prostituées et dire, mais tu sais, Dieu pardonne tous les péchés. Mais c'est vrai. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que Dieu pardonne les péchés d'une prostituée? Mais eux, quand ils péchaient, ils ne se pardonnaient pas. Mais comme quoi, on est tordu, vous voyez? Mais c'est malheureux quand même. Et c'est quelque chose que je me pose comme question. Qu'est-ce qu'un inconverti peut penser? Dépose tes fardeaux. Et s'il me voit anxieux, qu'est-ce qu'il va penser? Est-ce qu'il aura envie de se confier en Dieu? Mais non, il va dire, mais c'est ça ta foi. Même s'il ne l'exprime pas. Et je crois qu'on ne réalise pas le mal qu'on peut faire à des inconvertis. Moi, je crois qu'on peut faire confiance à Dieu. Celui qui a dit que les cheveux de notre tête étaient tous comptés. Que pas un passereau, pas un, ne tombe sans qu'il ne le veuille. Est-ce qu'on peut faire confiance à ce Dieu-là? Est-ce que vous pouvez dire, oui, il est mon refuge. Je refuse l'anxiété, je refuse la crainte. Les épreuves, bon, vous inquiétez pas, elles viendront. Mais l'anxiété, la crainte, je refuse. Il est un refuge. Et je dois me confier en lui. Et comme la prophétie l'a pu le dire, même nos enfants, confions nos enfants au Seigneur. Mettons-les avec nous dans la forteresse. Vous croyez qu'on peut mettre nos enfants par la foi dans la forteresse? Moi, je le crois. Moi, je le crois. Qu'on peut dire, Seigneur, moi, je ne peux pas m'en occuper. Mais toi, tu peux t'occuper de mes enfants. Par la foi, je mets toute ma famille dans la forteresse. Comme Noé qui a mis toute sa famille dans l'arche. Et Seigneur, tu les sauveras. Mes frères et sœurs, que l'on puisse avoir une immense joie de pouvoir témoigner entre nous déjà, mais de pouvoir tous ensemble glorifier Dieu et de lui dire, Seigneur, tu es mon refuge. Ça ne sera pas religieux, ça ne sera pas du verbiage philosophique, ça ne sera pas de la théologie, ça sera vraiment mon expérience. Tu seras mon refuge. Que son nom soit béni, frères et sœurs. J'aimerais qu'on demande au Seigneur de nous aider. Monsieur de Dieu, vous voulez bien venir prier à ma place? J'aimerais qu'on prie. Vraiment qu'on demande à Dieu de nous faire réaliser ces choses. Méditez le psaume 91, méditez-le, apprenez-le, mais que ça ne soit pas dans votre tête, mais dans votre cœur. On va prier pour cela, vous êtes d'accord? On termine ce culte en demandant à Dieu cette bénédiction. Que Dieu vous bénisse.